Bonjour frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une très belle fête des tabernacles. Je suis assuré que ça a été le cas. Nous sommes tous d'accord que ce que nous avons entendu au cours des 7 derniers jours, le monde en a besoin. Le monde a besoin de nouvelles lois, d'un nouveau gouvernement, d'une nouvelle vie et un système qui les aide vraiment. Nous sommes reconnaissants que Dieu nous a donné cette occasion d'être ici. Au cours de sa fête, nous avons eu une invitation de Dieu lui-même. C'est ma 48e fête des tabernacles. Et chaque année, j'apprends davantage à mesure que j'observe les fêtes de Dieu. M. Armstrong avait l'habitude de demander une question à chaque fête. Pourquoi êtes-vous ici? Il voulait que nous comprenions vraiment le but de Dieu. Pourquoi il nous avait appelés et quel est son plan par rapport à chacun de nous? Ce n'est pas la volonté de Dieu que personne périsse. Dieu veut donner la vie éternelle à tous ceux qui vont être disposés à lui obéir. Alors nous sommes ici pour apprendre davantage au sujet du plan de Dieu, au sujet de son plan de salut. La fête que nous observons aujourd'hui, c'est une fête différente de la fête qui vient de se terminer hier soir au coucher du soleil. Dieu nous donne la capacité spéciale de comprendre son grand plan de salut. Nous ne le méritons pas. Dieu nous a appelés gratuitement. Nous lisons dans Matthieu 13, verset 10. Allez à Matthieu 13 et le verset 10. Ses disciples lui ont demandé une question. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie, une prophétie d'Ésaïe. Et Jésus a cité cette prophétie, verset 16. « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Dieu nous a donné une vision spéciale et une compréhension spéciale pour comprendre les choses spirituelles à partir de ces Écritures que personne d'autre ne peut comprendre à moins d'être appelé par Dieu. Cette fête, le dernier grand jour que nous célébrons aujourd'hui, c'est une fête tout à fait différente de la fête des tabernacles que nous venons d'observer. C'est une fête particulière aujourd'hui pour un groupe spécial de personnes qui font partie de son plan de salut aussi. Et nous avons hâte à la réalisation de cette fête du dernier grand jour. Dieu appelle cette fête le dernier grand jour. Bien sûr, toutes les fêtes de Dieu sont grandes et importantes. C'est la dernière étape du plan de Dieu pour l'humanité. Ce n'est pas la volonté de Dieu que personne périsse. Allons à Lévitique chapitre 23, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 23. Dieu donne au chapitre 23 de Lévitique ses fêtes, son plan de salut. Verset 39, qu'est-ce qui est écrit? « Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. » Et voici qu'il parle du 8e jour, le jour qu'on célèbre aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de détails de données ici. Sauf qu'il dit que le 8e jour, il y a un autre événement spécial. Il y a un repos spécial. Il y a une fête particulière. Allons à Néhémie, chapitre 8. Néhémie a célébré cette même fête selon l'ordre de Dieu. Néhémie 8 et le verset 18. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Nous voyons ici deux exemples d'une fête à célébrer le 8e jour. Frères et sœurs, il y a de l'espoir pour tous ceux qui sont décédés. Dieu a dit qu'il ne voulait pas que personne périsse. Il est écrit dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse moins, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu n'a pas créé aucun individu pour qu'il périsse. Dieu veut offrir une chance de salut à tous les êtres humains. Dieu va donner la vie éternelle à ceux qui lui obéissent et il va leur permettre de vivre avec lui à jamais. Entre-temps, il faut développer le caractère parfait de Dieu pour que nous devenions membres de sa famille, pour qu'il puisse partager son pouvoir, sa gloire et sa richesse avec ses enfants pour l'éternité. Actes chapitre 4, s'il vous plaît. Actes chapitre 4. Voyons ce que l'apôtre Pierre dit ici, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut n'est pas en Mahomet, ni en Allah, ni en Bouddha, mais seulement en Jésus-Christ, en ce nom. Aucun autre nom sous le ciel n'existe par lequel nous puissions être sauvés, comme il est mentionné ici. C'est la volonté de Dieu d'offrir le salut à tous les êtres humains, mais en son temps, selon son ordre des choses. 1 Corinthiens, chapitre 15, c'est le chapitre de la résurrection. L'apôtre Paul déclare quelque chose d'important. 1 Corinthiens 15 et le verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, Adam a introduit, pour ainsi dire, la mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, voyez-vous, chacun en son rang. Christ, comme prémiste, il est le premier à avoir été ressuscité à la vie éternelle, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, comme la Bible le montre. Alors, voyez-vous, Dieu a un ordre de faire les choses. Le salut s'échelonne, selon certains groupes, sur long de temps. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Voyons ce que ça veut dire, cette période de temps sur laquelle s'étend l'offre de salut à différents groupes pour avoir couvert tout le monde. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que les gens comprennent son plan, l'acceptent et en vivent. Et à ce moment-là, Dieu peut donner la vie éternelle à ces gens appelés pour qu'ils vivent à jamais. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, voyez-vous, en son propre temps. Pour nous, c'est maintenant le jour de l'appel. Et durant le millénium, Dieu va appeler les êtres qui seront encore vivants. Et après le millénium, Dieu va offrir le salut à ceux qu'il va ressusciter. Allons à Actes chapitre 17, s'il vous plaît, et le verset 19. Actes 17 et le verset 19. Paul parlait du Dieu inconnu que les gens dans cette ville adorait. Il dit, « Je vous parle de ce Dieu-là, le Dieu qui a fait le monde, verset 24, et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » Paul démontre ici que ce Dieu que les gens ne connaissaient pas, c'est lui qui donne la vie. Verset 26, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. » Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, en parlant de Jésus-Christ. Le Christ aura la responsabilité de juger et tous devront paraître devant le trône du jugement de Christ. Hébreux chapitre 9, l'apôtre Paul écrit ici, Hébreux 9 et le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, qui que nous soyons, tous les êtres humains vont mourir. Après quoi vient le jugement. Voyez-vous? Ceux qui sont appelés maintenant, l'Église de Dieu, nous sommes actuellement sous le jugement, sous l'examen de Dieu pour voir ce que nous faisons avec ce qu'il nous a montré. 1 Pierre 4, verset 17. Et regardez, car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, c'est là que ça commence. Or, si c'est par nous que le jugement commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors, l'Église de Dieu, ses appelés actuellement, nous tous qui célébrons la fête, nous sommes sous le jugement de Dieu, sous l'examen de Dieu. Il faut nous-mêmes nous examiner. Nous sommes sous le jugement de Dieu. Nous avons accepté la vérité de Dieu. Nous avons accepté d'être dirigés par lui, d'être corrigés par lui. Et nous lui avons dit au baptême que nous voulons vivre selon ses voies et vivre à jamais avec lui dans le monde à venir. Voyez-vous, nous sommes, nous, sous ce jugement, nous seuls pour l'instant, parce que nous sommes seuls appelés, ceux de l'Église. Matthieu chapitre 10. Et nous allons lire le verset 15. Matthieu 10 et le verset 15. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Sodome et Gomorre n'ont pas été jugés par Dieu. On voit qu'ils seront ressuscités un jour pour être jugés. Ils auront leur chance d'être appelés au salut. Ils n'ont pas encore été appelés au salut. Le Christ montre ici que les gens qui ont rejeté ses disciples, les gens qui ont rejeté le Christ à l'époque où il était sur la terre, il dit, « Vous qui avez rejeté le Christ alors que mes disciples enseignaient la vérité, vous allez être jugés plus sévèrement au moment de la résurrection que Sodome et Gomorre. » Certains disent que nous prêchons une deuxième chance de salut. Jamais nous n'avons prêché une telle chose. Dieu donne à chacun une seule occasion d'être sauvé. Une seule occasion pour se qualifier vers la vie éternelle. Nous ne le méritons pas. Dieu nous donne cette occasion. Ce n'est pas une seconde chance. Les hommes ont un concept inexact de Dieu. Dieu est mal compris. Les gens ne le comprennent pas. Ils parlent de Dieu, mais ce sont des préceptes d'hommes. Ésaïe chapitre 29, nous allons lire le verset 13. Ésaïe chapitre 29 et le verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voyez-vous? Ils n'ont pas la vraie connaissance de Dieu. Ce sont des commandements d'hommes. J'ai grandi, moi, dans une église protestante, peut-être vous aussi, dans une autre église. On nous a enseigné que si on était bon, on irait au ciel. Si on était mauvais, on irait en enfer. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est ce que les hommes disent. C'est ce que les hommes disent de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Je ne connaissais pas Dieu ni son plan jusqu'à ce que Dieu m'appelle. Et ça a été la même chose en ce qui vous concerne, jusqu'au jour où Dieu vous a appelé et vous révèle son plan, vous montre à quel point il est un grand Dieu, merveilleux. Alors, Dieu nous dit que les préceptes d'hommes ne sont pas la vraie connaissance de Dieu, ne sont pas la vraie crainte de Dieu. des milliards de personnes sont décédées sans jamais connaître le vrai Dieu dont nous parlons. Le dernier grand jour représente l'occasion qui sera donnée à tous ces gens-là qui sont morts dans l'histoire de revenir à la vie et d'être appelés. C'est un honneur pour nous de comprendre son plan, et nous sommes entraînés dans sa vérité maintenant pour aider les autres un jour, lorsqu'ils seront ramenés à la vie et qu'ils seront à leur tour sous le jugement. Dieu est tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Dieu est vraiment le tout-puissant. Rien n'est au-dessus de ses forces. Voyons deux ou trois passages à ce sujet-là. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 18, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 18. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il aurait un fils, Sarah a ri parce qu'elle ne croyait pas ce qui allait arriver. Genèse 18, verset 10. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Voilà la grande question. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous avez des besoins, si vous avez des situations difficiles, rien n'est trop grand pour Dieu. C'est le Dieu de l'Église, c'est le Dieu du plan que nous voyons, c'est le Dieu des jours saints, c'est El Shaddai, le Tout-Puissant. Allons à Jérémie, chapitre 32, Jérémie, chapitre 32, et nous allons lire le verset 17, dans le même ordre d'idée de ce que je viens de vous dire, Jérémie 32 et le verset 17. « Dieu peut toutes choses. » « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Voilà le principe. Verset 27. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Que dire de vos problèmes, de vos difficultés, de vos épreuves? Est-ce qu'il y a des choses au-dessus des pouvoirs de Dieu? Lorsque nous sommes malades, est-ce qu'il y a quelque chose de trop grand pour Dieu? Non, rien n'est impossible à Dieu et Dieu ne ment pas. Nous devons mettre notre foi en sa grande puissance. Rien ne lui est impossible. Allons à Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, nous allons lire le verset 46. Luc 1, verset 46. C'est l'épisode où Marie est allée visiter sa cousine Élisabeth. Verset 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que l'archange Gabriel a dit. En tant qu'être humain, on a de la difficulté à saisir la puissance de Dieu et la puissance du Christ. Il a abandonné sa gloire et sa puissance pour être engendré physiquement dans le sein de Marie et il est devenu fils de Dieu par la résurrection. Nous avons de la difficulté à saisir la dimension de ça, mais voilà la puissance de Dieu. Écoutez, l'univers entier attend ce que la Bible appelle la révélation des fils de Dieu, que nous soyons transformés, que nous devenions membres de la famille de Dieu. Dieu a appelé des êtres humains faits de la terre. Il veut leur pardonner leurs fautes, leur montrer la voie à suivre, les aider à changer et ensuite leur donner un héritage extraordinaire. Dieu nous a appelés à la gloire, à la puissance, et il nous faut garder les yeux sur cela, sur notre appel, sur la grandeur de notre appel et de ce qui nous attend. Seulement l'Église comprend le but de Dieu, le but de son plan, ce qu'il est en train d'accomplir maintenant. Nous savons qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui sont décédés. Il y a de l'espoir pour eux. Ça nous démontre clairement dans l'œuvre de Dieu qu'aujourd'hui, au moment où nous vivons, ce n'est pas le seul jour de salut. Un autre jour de salut vient pour tous ceux qui sont décédés dans l'histoire. Le seul espoir de l'humanité décédée, c'est dans la résurrection. Allons à Jean, chapitre 5, s'il vous plaît, Jean, chapitre 5, verset 24, Jean 5 et le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Donc, il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Voyez-vous, comme on a lu dans Matthieu 13, Dieu nous a bénis abondamment. Il nous a donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Il nous faut garder les yeux ouverts et les oreilles ouvertes pour être sensibles et ouverts à la vérité de Dieu et vivre selon les lois de Dieu. Nous sommes actuellement sous l'examen de Dieu. Il veut voir ce que nous faisons avec ce qu'il nous a donné. Verset 25, « en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela. » Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Ils vont revenir à la vie. Ils entendront sa voix et sortiront des sépulcres. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix et me suivent. » Ils entendront la voix du Fils de l'homme et sortiront des sépulcres. Ils revivront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Le Christ a dit clairement qu'il est la résurrection, il est la vie. Nous devons lui appartenir, le Christ est en nous, et nous devons être en Jésus-Christ, marcher selon ses voies. Jean chapitre 11 maintenant, lorsque Lazare est mort, Jésus-Christ s'est rendu et l'a ressuscité. Et on voit ici que Marthe lui exprime ses idées, verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Voilà la foi qu'elle avait, Marthe. Tout ce que vous demandez à Dieu, Marthe a dit, tout ce que tu vas demander à ton Père, il va te l'accorder. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Celui qui vit en Jésus-Christ et qui croit en lui, croit au Sauveur de l'humanité. Et c'est par lui qu'il peut être sauvé. Il est notre espoir. On doit désirer être dans la première résurrection parce que c'est la meilleure résurrection. Pour nous, c'est aujourd'hui le temps de nous qualifier et d'arriver à la première résurrection. Le jugement de Dieu est sur sa maison maintenant, sur ceux qu'il appelle. Il nous faut être fidèles jusqu'au retour du Christ, jusqu'à ce qu'il nous ressuscite et nous permette d'entrer dans la famille de Dieu. Allons à Apocalypse chapitre 20, s'il vous plaît. Commençant au verset 1. Une vision que Jean a vue. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ça va se réaliser au moment où le jour des expiations va s'accomplir, et ce sera le jour le plus heureux de l'histoire, parce que l'humanité sera libérée de Satan et de ses démons. Il le jeta, verset 3, dans l'abîme, fermant, c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. » Ils régnèrent pendant 1000 ans. Cette première résurrection aura lieu au retour de Christ. Et les gens qui seront ressuscités à ce moment-là vont régner avec le Christ pendant 1000 ans. Nous venons de célébrer cela au cours des 7 derniers jours. Les autres morts, verset 5, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Alors, on voit qu'il y aura une résurrection. Les autres morts vont demeurer morts jusqu'après cette période de 1000 ans. Avant le 1000 ans, il y aura une première résurrection et il y aura une deuxième résurrection après le 1000 ans qui s'adresse à toutes les personnes qui ont vécu dans l'histoire et qui vont être ramenées à la vie. On parle de milliards et de milliards d'individus, d'êtres humains, et ils auront à ce moment-là leur première chance d'apprendre les voies de Dieu. Et nous serons là pour les aider à apprendre ces voies de vie. Nous allons leur enseigner à partir des Écritures, comme nous apprenons maintenant. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Il parle de celle qui a lieu avant le 1000 ans. Juste avant les 1000 ans. Verset 6. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Tous les chrétiens meurent une fois, mais une fois qu'ils seront ressuscités, la deuxième mort n'aura point de pouvoir sur eux, et nous pourrons vivre éternellement avec le Christ. Nous avons choisi de lui obéir. Nous ne choisissons pas de nous détourner de Dieu, de ses lois, de son plan. Nous voulons être avec lui. C'est notre espoir, c'est notre seul espoir de vie éternelle et de gloire. Dieu nous a placés dans le corps du Christ, dans l'Église de Dieu, dans son Église. Je me rappelle, en 1977, j'ai donné un sermon le dernier grand jour. Et après que j'ai eu terminé mon message, un individu est venu me voir. Il avait de la difficulté à entendre et il s'est mis à pleurer. Il pleurait à chaudes larmes. J'ai attendu qu'il finisse de pleurer. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Il m'a dit après, « Je veux vous dire quelque chose. Je n'ai jamais dit à personne ce que je vais vous dire. » Quand j'étais adolescent, j'étais l'adolescent le plus rebelle possible. Je faisais tout le contraire de ce que mon père disait le plus possible. J'étais pour entrer dans le corps des marines et mon père a essayé de m'en dissuader. Ça m'a rendu tellement furieux que j'ai mis mon poing devant son nez et je lui ai dit « J'espère que tu vas tomber mort. » Et vous savez, M. Ligue, mon père est mort à ce moment précis. Je l'ai ramassé et je lui ai dit, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais dire, je regrette, mais mon père était mort. J'ai traîné cette culpabilité-là depuis 35 ans. Et vous me faites réaliser que je vais revoir mon père. Et la première chose que je vais faire en revoyant mon père, je vais mettre mes bras autour de lui et je vais lui dire, « Papa, je ne voulais pas faire ça et je ne voulais pas te dire ça. Je t'aime. » Voilà ce que représente le jour que nous célébrons aujourd'hui. Un jour qui aura un impact extraordinaire sur tous les êtres humains à n'avoir jamais vécu. Jean, chapitre 7, maintenant. Jean, chapitre 7. On parle du dernier grand jour de la fête ici. Le Christ a agi de façon particulière en ce dernier jour qu'on voit ici. Jean 7 et le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, celui que nous célébrons aujourd'hui, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ce jour va venir. Et tous les êtres humains auront l'occasion d'être appelés. Allons à Apocalypse 22, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 22. Vers la fin du livre, Apocalypse 22, et nous allons lire à partir du verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et voici l'invitation et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Comme nous venons de lire dans Jean 7. Alors, il sera dit aux gens, « Voici, le salut vous est offert maintenant, venez, venez. » Pour nous, l'invitation, elle est pour le temps présent. Matthieu 11, s'il vous plaît. Matthieu 11, maintenant. À partir du verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Je répète, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est important. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Plus nous découvrons qui est Dieu, plus nos fardeaux deviennent légers lorsque nous nous confions à lui. Dieu a dit, « Venez à moi et vous trouverez du repos. » C'est notre Sauveur qui nous invite d'aller à lui. Comme j'ai mentionné, ce n'est pas la volonté de Dieu que personne périsse. Allons à Ézéchiel, chapitre 33, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 33, et le verset 11. Dieu dit par la bouche d'Ézéchiel, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Dieu plaide, pour ainsi dire, avec la nation d'Israël ici pour qu'ils se détournent de leur voie mauvaise et qu'ils apprennent les voies de Dieu, qu'ils observent ses lois pour qu'ils soient heureux. Malheureusement, ils ont continué à se rebeller contre Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à la mort. Dieu ne prend pas plaisir à voir les gens mourir. Ézéchiel 18 maintenant et le verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Voyez-vous, frères et sœurs, C'est Satan qui a amené la mort dans le monde. Il a amené la mort abondamment dans le monde. Mais Jésus est venu dans le monde pour apporter la vie, et la vie en abondance, même la vie éternelle. Alors ici, Dieu plaide, pour ainsi dire. Il dit, « Je suis vivant. Changez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Dieu est celui qui donne la vie, et Dieu offre la vie éternelle à tous les êtres humains, mais en son temps, chacun à son temps. Dieu veut que les gens puissent changer et avoir la vie. Allons à Romains chapitre 11, s'il vous plaît. Romains chapitre 11. C'est l'apôtre Paul ici qui parle. Romains 11 et le verset 25, il parle de la nation d'Israël, toute la maison d'Israël, qui se verra offrir le salut au temps que Dieu a fixé, au moment de ce dernier grand jour, quand le dernier grand jour va se réaliser et que tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire vont être amenés à la vie. Romains 11 et le verset 25. Cette résurrection sera extraordinaire. Il y aura tellement de bonheur à ce moment-là. Tous les êtres humains auront la chance de faire partie du plan de salut de Dieu. Ils vont découvrir la vérité. Verset 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Le plan de Dieu couvre la nation d'Israël, tout Israël aussi. Ils auront leur chance de se voir offrir le salut. Tous auront accès à l'arbre de vie et pourront avoir la vie éternelle, à moins d'être incorrigibles, comme on voit dans la Bible. Alors Dieu va ressusciter toute la nation d'Israël. Il va leur redonner la vie, comme on voit dans Ézéchiel chapitre 37. Allez à Ézéchiel chapitre 37. Ça parle de cette grande résurrection qui aura lieu lorsque se réalisera le dernier grand jour. C'est tellement frappant de voir ce qui va se passer à ce moment-là. Tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire seront ramenés à la vie. Verset 1, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs, symbolisant qu'ils sont morts depuis très longtemps. Il me dit, « Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront revivre? » Voilà la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus des forces de Dieu? Est-ce que certaines choses sont impossibles à Dieu? Non, rien n'est impossible à Dieu. Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, un souffle, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Tous ces gens-là n'ont jamais connu le vrai Dieu. Nous le connaissons. Ils apprendront à le connaître lorsqu'ils reviendront à la vie, lorsque le jour que nous célébrons aujourd'hui, le dernier grand jour, se réalisera. Ce sera le temps où le salut spirituel sera offert à toute l'humanité qui est décédée. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu. Les gens, à travers l'histoire, ont cru à toutes sortes de faux dieux qui n'existaient pas. Il y existe un seul Dieu, et Dieu veut partager l'éternité avec tous. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Verset 7, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit, c'est-à-dire de souffle. Et il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Il parle ici d'une résurrection à la vie physique. Les gens vont avoir un corps physique. Je prophétisais, verset 10, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit, le souffle, entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Rappelez-vous, le Christ a dit que je suis la résurrection. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront ma voix et en sortiront. Nous voyons ici la réalisation de cette prophétie de Jésus, de cette promesse, pour ainsi dire. Verset 14. « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. » Ici, il annonce autre chose. La réunification de Juda et d'Israël. Mais on voit comment Dieu réalise son plan. Dieu a donné ses lois à Abraham, à Israël, à sa nation choisie. Ils l'ont rejeté malheureusement. Dieu a été très patient envers eux. À la fin, ils se verront offrir le salut. À la fin, ils pourront être sauvés comme nous. Nous devons désirer être là pour la deuxième résurrection, pour retrouver nos chers disparus, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, nos amis. Ce sera formidable. Quelle occasion unique, merveilleuse, tellement touchante. C'est le grand plan merveilleux de Dieu pour toute l'humanité. Rappelons-nous le plan de Dieu. Ces jours saints représentent quelque chose de grandiose. La Pâque, les jours des pains sans levain, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations, la fête des tabernacles, et maintenant, le dernier grand jour, ce qui complète son plan. Rappelons-nous toujours ces choses-là. Le plan de Dieu est un plan merveilleux. Il nous faut l'étudier, l'approfondir, le faire nôtre, mettre en pratique les voies de Dieu, nous préparer de plus en plus pour recevoir les responsabilités qu'il veut nous donner. Nous sommes à l'entraînement actuellement pour quelque chose qui approche. Nous sommes en préparation sous la supervision de Dieu. Nous sommes en train de développer, de vivre selon les voies de Dieu pour que nous puissions les enseigner dans le monde à venir. Vous savez, l'univers entier attend la délivrance, pour ainsi dire. Dieu a un plan merveilleux. Il nous l'a révélé. Le Tout-Puissant va nous aider tous. Plus nous allons le chercher, plus il va nous aider. Rappelez-vous qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien n'est trop difficile pour lui. Aucun problème ne peut être réglé, ni aucune difficulté ne peut être vaincue. Dieu veut que nous vainquions, veut que nous croissions dans la grâce et dans la connaissance. Il travaille pour nous aider. Même ses anges sont à notre service dans ce sens-là. Désirons être dans la première résurrection pour être là, à la deuxième résurrection aussi. Si je ne suis pas là et si vous n'êtes pas là à la première résurrection, vous qui êtes appelés maintenant, vous ne serez pas dans la deuxième résurrection. Vous serez là à la troisième résurrection pour être détruit. Soyons fidèles. Soyons des enfants fidèles de Dieu. Gardons ses voies, gardons ses lois en tant que témoignage, comme de quoi ses voies marchent. Passez une merveilleuse journée aujourd'hui. Et rappelez-vous, frères et sœurs, qu'il nous faut être ensemble pour terminer l'œuvre, pour retrouver nos êtres chers.